C'est ce qui est redouté par Evo Morales et son gouvernement, effectivement, puisque les sondages, même s'il faut bien entendu relativiser les chiffres proposés par ces sondages, parce que d'une part, ils sont très variables et souvent peu fiables, d'après ces sondages, environ 40% de la population voterait donc pour le oui, c'est-à-dire pour une réforme de la Constitution qui permettrait à Evo Morales de briguer un quatrième mandat en 2019. Donc 40%, mais largement en deçà des pourcentages de suffrages obtenus lors des élections précédentes par Evo Morales, qui atteignait 50 à 64% des votes des électeurs.
Alors l'opposition accuse le président de corruption. Quels sont les faits qu'elle lui reproche exactement ?
Alors effectivement, au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs scandales politiques liés à des faits ou des présomptions de corruption, dont un qui concernait directement Evo Morales, a priori, puisque son ex-compagne aurait bénéficié, si vous voulez, les chefs d'entreprise auraient bénéficié de gros contrats de la part de l'État. Et puis, il y a surtout un autre scandale, cette fois-ci à plus grande échelle, qui correspond au fonds de développement autochtone, qui est un fonds débloqué par l'État pour soutenir les communautés paysannes et autochtones. Et là, plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions de dollars ont été détournés. Cela a posé un vrai problème au gouvernement d'Evo Morales, puisque sa base électorale et historique se compose largement de ces secteurs autochtones et paysans.
Quelle a été la stratégie du président pour convaincre ces derniers mois les Boliviens de lui laisser briguer un quatrième mandat ?
Alors cette campagne, elle s'est caractérisée pour être assez floue dans la définition de ses objectifs. Effectivement, l'objectif étant de réformer la Constitution pour ce quatrième mandat éventuel de Evo Morales. Mais si vous voulez, la proposition a émergé du parti même d'Evo Morales dès le lendemain de son élection de sa réélection en janvier 2015. Cette proposition donc de réforme constitutionnelle a émergé de la base à la fois paysanne et en partie des classes sociales partisanes du MAS, du Movimiento al Socialismo. Donc c'est une proposition, on va dire, gouvernementale qui a émergé il y a plus d'un an, qui s'est concrétisée au fur et à mesure des mois.
Est-ce que Evo Morales a défendu un bilan pour justement convaincre de voter oui à ce référendum ?
Cette campagne a surtout été marquée par, je dirais, les accusations mutuelles entre le gouvernement et l'opposition. Une opposition qui s'est par ailleurs étoffée, qui n'est plus composée seulement des secteurs ou des partis néolibéraux ou conservateurs, mais qui s'est élargie vers la gauche et le secteur progressiste, puisqu'il y a plusieurs formations politiques de gauche qui sont apparues et qui font directement concurrence à Evo Morales. Donc si vous voulez, cette campagne, on pourrait la caractériser comme une sale campagne. Personnellement, en tant qu'observateur, je n'avais pas vu cela depuis 2006. Donc là, on a assisté vraiment à un échange de coups bas, voilà, mutuel, c'est-à-dire que le gouvernement a largement critiqué l'opposition sur ses positions conservatrices, présupposées conservatrices, libérales, pilotées par Washington. Bref, le discours habituel du gouvernement quand il se sent dos au mur. Et puis, de l'autre côté, l'opposition a insisté sur les faits de corruption, sur cette personnalisation croissante du pouvoir autour de la figure d'Evo Morales. Les arguments n'étaient pas toujours fondés, se présentaient plutôt sous forme d'accusations plutôt que de faits avérés, confirmés par la justice ou par les médias.
Et vous avez commencé à y répondre un petit peu. Quelles sont les classes de la population qui soutiennent le président bolivien ?
Le président Morales peut toujours compter sur une large base qui est la base paysanne. À celle-ci s'est ajoutée au cours des dernières années, notamment au cours des derniers mandats, une large frange des classes moyennes. Celles-ci sont toutefois un peu marquées par la désillusion. C'est ce qui explique ces 40% d'électeurs qui voteraient pour le oui et pas plus. Donc voilà, on est un peu dans l'expectative. Mais si vous voulez, le parti de Morales repose encore largement sur une base paysanne qui a largement bénéficié de la politique d'Evo Morales au cours des 10 dernières années.
Et la Bolivie connaît une stabilité politique depuis plusieurs années. Est-ce que un non au référendum pourrait menacer justement cette stabilité ?
Alors ça peut être effectivement un scénario qui peut se dessiner si le non l'emporte, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, au sein du parti d'Evo Morales, au sein du gouvernement, il n'y a pas d'outsider, de personne qui pourrait véritablement prendre la suite d'Evo Morales, puisque le Movimiento al Socialismo, le parti d'Evo Morales, vraiment s'est construit autour de la figure d'Evo Morales. Il n'y a, si vous voulez, aucune figure émergente derrière, aucun outsider. Et puis dans l'opposition, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de figure qui vient contester l'hégémonie politique d'Evo Morales aujourd'hui. Donc si le nom l'emporte, cela signifie que Evo Morales ne peut pas se représenter en 2009 et que cela pourrait susciter vraiment des appétits aigus de, tant dans le camp d'Evo Morales que dans l'opposition.
Vous parliez tout à l'heure de désillusion que connaissaient des personnes qui soutenaient Morales. Pourquoi une désillusion ?
Désillusion sur un ensemble de choix politiques qui ont été menés. Je crois que la plus grande désillusion est vécue par les peuples autochtones eux-mêmes qui attendaient beaucoup du gouvernement d'Evo Morales, attendaient beaucoup de la constitution de 2009 qui a été le fruit d'une assemblée constituante pendant laquelle le gouvernement d'Evo Morales et le mouvement autochtone étaient très proches des alliés politiques. Et je crois qu'à l'issue, si vous voulez, de ce mandat en 2015, Evo Morales n'avait pas du tout répondu aux attentes des organisations autochtones qui espéraient la mise en place d'un État plurinational, donc qui accordait une place particulière aux peuples autochtones dans l'organisation même de l'État. Et puis les peuples autochtones, si vous voulez, ne voient pas sur le terrain véritablement leur situation sociale, économique, politique changer, alors que la Constitution prévoit, par exemple, la transformation des territoires autochtones en collectivités territoriales politiques, prévoit le respect d'un certain nombre de droits internationaux destinés aux peuples autochtones, comme le droit à la consultation préalable sur tous les projets qui s'effectuent dans les territoires autochtones. Donc voilà, c'est tout cela qui fait que le mouvement autochtone est en total, je dirais, vit une totale désillusion à l'égard de la politique d'Evo Morales aujourd'hui.